Bonjour, l'intelligence artificielle, la data. On en entend parler partout, hein, surtout dans le monde de l'investissement en ce moment.
Ah oui, impossible de passer à côté.
On voit passer plein de termes, AI copilote, dashboard super intelligent, scoring prédictif.
C'est vrai.
Mais bon, entre nous, combien de ces idées, vraiment géniales sur le papier, finissent par réellement changer le quotidien d'un fonds d'investissement? Ça reste souvent un peu flou.
Exactement. Beaucoup d'expérimentations. Mais la transformation concrète, c'est autre chose.
C'est pour ça qu'aujourd'hui, on va regarder de plus près une ressource qui a l'air assez pratique, une fiche IA Data, la numéro 14. Elle propose une sorte de méthode, une feuille de route pour vraiment structurer une démarche IA et data dans une société de gestion.
Une approche structurée, c'est souvent ce qui manque.
Voilà. L'idée de notre exploration aujourd'hui, c'est de comprendre pourquoi cette fiche insiste tellement sur la gouvernance, avant même de parler techno. Et surtout, comment on fait concrètement pour passer à l'action et utiliser ces outils pour améliorer la performance. On va décortiquer un peu les étapes clés, les bases pour que ça marche.
Tout à fait. C'est crucial de comprendre que l'IA et la data, ce ne sont plus juste des outils techniques isolés. Non, ce sont vraiment des éléments stratégiques.
Stratégiques, c'est-à-dire ?
Bah, ça touche directement à l'efficacité des équipes, à la fiabilité de l'information, et ça, c'est fondamental pour la confiance des investisseurs, les fameux LP, et au final, ça joue sur la compétitivité même du fonds. Très souvent, le vrai blocage, il n'est pas technique. C'est le manque de structure, de vision portée au plus haut niveau.
D'accord. Alors justement, pourquoi attaquer par la gouvernance IA ? Qu'est-ce que ça apporte de si concret, au-delà d'un organigramme de plus ? Le document, il liste des bénéfices assez clairs, j'ai l'impression.
Oui, des bénéfices tangibles.
On dirait que l'idée principale, c'est qu'une bonne gouvernance IA Data, ce n'est pas juste pour faire joli sur le papier. Ça permet vraiment de débloquer des gains mesurables.
Absolument.
Par exemple, gagner du temps sur des trucs comme le reporting, la recherche de documents, la collecte de données. Et puis, améliorer la qualité, la traçabilité des données, ce qui rassure les LP.
Exactement. La confiance, c'est clé.
Et même, ça pourrait donner un avantage concurrentiel. Une image plus moderne qui montre qu'on maîtrise ces technologies de façon réfléchie et souveraine. C'est un peu ça.
C'est tout à fait ça. Et derrière, il y a un constat simple. Sans cette impulsion forte qui vient d'en haut, des partners, eh ben les initiatives IA, data, elles restent souvent des projets pilotes, isolés.
Ah oui, les sortes de proof of concept qui ne débouchent sur rien.
Voilà. Une équipe peut être super motivée, lancer un truc intéressant, mais si derrière il n'y a pas de vision stratégique partagée, pas de moyens dédiés, ça ne passe jamais à l'échelle. L'IA et la data, ça touche tout. Le sourcing des deals, l'analyse, le suivi du portefeuille, la relation avec les investisseurs.
Donc c'est forcément transversal.
Forcément. C'est stratégique par nature. Et la gouvernance, c'est simplement le moyen de traiter ce sujet comme tel, à son juste niveau.
Logique. Mais alors, comment on la met en place, cette gouvernance, pour qu'elle ne soit pas juste une coquille vide? Le document y propose une action très concrète. Créer un comité de direction, un CODIR, dédié à l'IA et la data. Ça fait pas un peu formel, un comité de plus?
Ça peut sembler formel, oui. Mais l'impact est important. D'abord, en interne, ça envoie un message très clair. Ce sujet est une priorité. Il est porté par le top management. Ça aide à mobiliser tout le monde.
Ok, un signal interne.
Et puis, vis-à-vis de l'extérieur, notamment des LP, ça montre un engagement sérieux, structuré. Mais attention, ce n'est pas juste un symbole. Ce CODIR, il a un rôle très opérationnel.
D'accord, opérationnel. Et qui on met dedans pour que ça fonctionne bien, pour qu'il soit crédible? Et sa mission, ce serait quoi exactement?
Alors, pour la composition, le point essentiel, c'est d'avoir les partners. Ça, c'est pas négociable. Pour la légitimité, pour le pouvoir de décision.
Indispensable.
À côté d'eux, il faut les responsables des fonctions clés qui sont directement concernés. L'IT, bien sûr, la personne en charge de la data si elle existe déjà, mais aussi la conformité, très important, les finances et les relations investisseurs, l'IR. La fiche suggère même, et c'est intéressant, d'inviter de temps en temps un LP important pour avoir son retour, sa vision.
Ah oui, pas bête ça.
Et la mission de ce CODIR, elle est finalement assez simple. Premièrement, définir la vision stratégique IA Data pour le fonds. Où est-ce qu'on veut aller avec ça? Deuxièmement, arbitrer les priorités. Quels sont les cas d'usage qui vont avoir le plus d'impact et qui sont faisables? On ne peut pas tout faire en même temps.
Il faut choisir.
Exactement. Troisièmement, allouer les ressources. L'argent, mais aussi les équipes, le temps. Et enfin, quatrièmement, distribuer les actions concrètes aux différentes équipes et surtout, suivre que ça avance.
Et comment on évite que ça devienne juste une réunion de plus qui patine dans des agendas surchargés?
bonne question. Le document insiste beaucoup là-dessus. Régularité et efficacité. Il vaut mieux faire des réunions courtes, peut-être toutes les deux semaines, mais très ciblées sur la prise de décision et le suivi des actions, avec un compte-rendu clair systématique. C'est ce rythme régulier qui maintient la dynamique et qui assure que les projets avancent vraiment. Sinon, oui, le risque d'enlisement est énorme.
D'accord, donc une structure de pilotage claire, rythmée. Une fois que ce CODIR est en place, sur quoi on s'appuie au quotidien? Quels sont les grands principes de cette démarche? La fiche parle de quatre piliers essentiels. On peut peut-être les regarder un par un?
Oui, absolument. Le premier pilier, c'est la fiabilité. C'est la base de tout, vraiment. Les LP, les régulateurs, mais aussi les équipes elles-mêmes, doivent pouvoir avoir confiance dans les données et les systèmes utilisés.
La confiance encore?
Toujours. Ça veut dire une traçabilité impeccable. D'où vient cette donnée? Comment elle a été traitée, transformée? Et un point très important que soulève la fiche, il faut prévoir une vérification humaine systématique pour chaque utilisation de l'IA, même si c'est très automatisé. Il faut aussi définir des standards de qualité internes très clairs.
Attends, cette idée de vérification humaine systématique, est-ce que ça ne va pas à l'encontre de la promesse d'efficacité de l'automatisation? Comment on trouve le juste milieu?
C'est tout l'enjeu. Et c'est un équilibre délicat, c'est vrai. L'idée, ce n'est pas de tout revérifier à la main, bien sûr, mais c'est de mettre en place des contrôles intelligents, humains, aux étapes critiques. Surtout quand les décisions basées sur l'IA ont un impact significatif, ou quand on manipule des données très sensibles.
Ok, des points de contrôle stratégiques.
Voilà. C'est pour combiner le meilleur des deux mondes, la puissance de calcul, la vitesse de la machine, et le jugement critique, l'intelligence de l'humain. C'est aussi un gage de sérieux, de maîtrise.
D'accord, le deuxième pilier?
L'IA et la data, ce n'est pas que l'affaire de l'équipe IT dans son coin, ni de quelques data scientists stars. Non. Pour que ça fonctionne, pour identifier les vrais besoins, les cas d'usage qui apportent vraiment de la valeur, il faut que ça irrigue tous les métiers du fond.
Le deal flow, l'analyse, le suivi du portefeuille, le reporting?
Exactement. Donc, la gouvernance doit venir des partenaires, on l'a dit, pour la légitimité, mais surtout, il faut activement casser les silos. Encourager la communication, la collaboration entre les différentes équipes.
Facile à dire, mais casser les silos, c'est un peu le serpent de mer dans beaucoup d'entreprises, non, hein? Est-ce que la fiche donne des pistes concrètes pour y arriver, au-delà de la bonne intention?
Oui, elle suggère des choses. Déjà, le CODIR lui-même, dans sa composition mixte, c'est un premier levier. Ensuite, l'idée, c'est de lancer des projets pilotes qui, dès le départ, impliquent plusieurs équipes différentes.
Forcer la collaboration, en quelque sorte.
Un peu, oui. Et puis mettre en place ce fameux registre partagé des cas d'usage, où tout le monde peut proposer des idées, voir ce que font les autres. Ça aide à rendre les besoins visibles et à repérer des synergies possibles. Mais oui, c'est un effort continu. Il faut créer des points en permanence.
Compris. Troisième pilier.
Le troisième, c'est peut-être le moins sexy, mais il est absolument critique. La documentation et des standards. Il faut être hyper rigoureux là-dessus. Documenter les processus qu'on met en place, les sources de données qu'on utilise, les modèles d'IA développés ou utilisés.
Ah oui, la traçabilité dont on parlait.
Exactement. La fiche parle de créer une « golden source », c'est-à-dire une source de données de référence unique et fiable pour les informations clés du fond. Et accessible à tous ceux qui en ont besoin. Il faut aussi définir des standards, comment on nomme les fichiers, quel format on utilise, comment les différents outils communiquent entre eux.
On sent que c'est la partie un peu ingrate, mais si on ne le fait pas, on risque de construire un château de cartes, c'est ça?
C'est exactement ça. C'est le socle, invisible peut-être, mais indispensable. Pour la fiabilité, bien sûr, mais surtout pour pouvoir ensuite déployer plus largement ce qui marche, ce qu'on appelle la scalabilité. Sans documentation claire, sans standard, chaque nouveau projet repart un peu de zéro, on refait les mêmes erreurs, et impossible de garantir la qualité dans la durée. C'est un investissement, mais il est essentiel.
Et le dernier pilier, le quatrième?
Le quatrième, c'est la souveraineté. C'est un sujet qui prend de plus en plus d'importance. Très concrètement, où sont stockées les données sensibles du fonds et de ses participations? Qui a accès? Comment on garantit la confidentialité, notamment par rapport à des fournisseurs de logiciels externes ou par rapport à des lois étrangères comme le Cloud Act américain?
Des questions cruciales aujourd'hui.
Absolument vitales, pour rassurer les LP et aussi pour être en règle avec les réglementations. On pense au RGPD, bien sûr, mais aussi à DORA, le Digital Operational Resilience Act qui arrive dans le secteur financier, et sans oublier le futur IA Act européen.
Donc, la conformité, le contrôle des données, ce n'est plus juste une contrainte légale qu'on subit, ça devient un vrai sujet stratégique.
Totalement. La capacité à prouver qu'on maîtrise ces données, ces outils IA, dans un cadre qui est souverain, qui est conforme aux règles européennes, ça devient un vrai critère de différenciation, un gage de confiance.
Choisir des solutions européennes ou qui offrent des garanties fortes là-dessus.
Oui, ce n'est plus juste un choix technique. C'est un choix stratégique qui peut vraiment influencer la perception du fonds par ses investisseurs, par ses partenaires.
Ok. Ces quatre piliers, fiabilité, transversalité, documentation, souveraineté, ça dessine un cadre assez clair et exigeant. Mais par où on commence concrètement pour ne pas se sentir complètement dépassé? Quelles sont les premières actions que la fiche suggère pour lancer la machine?
L'approche est pragmatique, oui.
J'ai vu qu'il suggérait, par exemple, de commencer par lister, cartographier les cas d'usage possibles dans un registre, en les notant simplement. Quel impact on attend? Est-ce que c'est facile à faire ou très compliqué? Ça aide le CODIR à prioriser, j'imagine.
Tout à fait.
Une autre idée, c'était de lancer vite un proof of concept, un POC, sur un périmètre limité mais qui se voit. Par exemple, automatiser une partie du reporting OLP ou créer un petit moteur de recherche intelligent pour retrouver des infos dans la masse de documents internes pour montrer que ça marche, quoi.
C'est l'approche classique et efficace. Start small, think big. Commencez petit mais pensez grand. Un POC réussi, même modeste, ça crée de l'enthousiasme, ça montre la valeur et ça justifie d'investir plus. La fiche mentionne aussi l'importance de rédiger assez vite une charte interne, IA, data.
Une charte, encore un document?
Mais ce n'est pas juste un document administratif de plus. C'est l'occasion de mettre noir sur blanc les règles du jeu pour tout le monde. Quelle est la vision du fonds sur l'IA? Quels sont les principes éthiques qu'on se fixe? Quels engagements on prend sur la souveraineté? Qui est responsable de quoi? C'est un outil de communication et d'alignement qui est vraiment essentiel.
D'accord. Et créer un dashboard transverse avec les indicateurs clés, les fameux KPI, ça aussi, ça semble être une bonne première étape.
Oui, absolument, parce que ça rend les choses visibles et partageables. Avoir un tableau de bord qui regroupe les chiffres clés du deal flow, l'état du portefeuille, les interactions avec les investisseurs, ça aide à avoir des discussions basées sur des faits, à piloter de manière plus objective. C'est souvent un excellent premier pas vers une culture plus « data-driven », comme on dit.
Et bien sûr, former les équipes, ça revient souvent ce point sur la formation. Pourquoi c'est si important dans cette démarche AI?
C'est fondamental. Parce que le but, ce n'est pas que tout le monde devienne un expert en code ou en algorithme. Pas du tout. Le but, c'est de créer une culture commune autour de l'IA et de la data.
Une acculturation, en fait.
C'est ça. Il faut que chacun comprenne un minimum les enjeux. Qu'il sache utiliser les outils qu'on met à disposition de manière responsable, en respectant les règles, d'où l'importance de la charte et de la documentation dont on parlait. Et aussi, que chacun soit capable de repérer les opportunités d'amélioration, des cas d'usage potentiels dans son propre travail. C'est un vrai changement culturel, profond, et ça demande d'accompagner tout le monde, pas juste les quelques spécialistes.
Et ce besoin de se structurer, de former, il est peut-être encore plus urgent quand on regarde ce qui se passe ailleurs, non? L'affiche évoque une compétition internationale assez intense sur ces sujets.
Oui, le contexte international est un point important.
Apparemment, aux États-Unis, l'utilisation de l'IA et de la data par les fonds d'investissement, ce serait déjà quelque chose de très courant, avec des investissements massifs depuis des années. Des pratiques IA data-driven pour trouver des deals, pour évaluer les boîtes, pour faire des reporting plus poussés.
C'est une réalité là-bas, oui. Ils ont pris de l'avance sur certains aspects.
Et l'Asie aussi, notamment Singapour, la Corée. Ils lancent des initiatives fortes pour digitaliser tout l'écosystème financier. Est-ce qu'on risque pas de se faire distancer en Europe?
C'est une vraie question. Et il y a un risque, oui. Les attentes des LP internationaux, elles évoluent très vite. S'ils sont habitués à recevoir des analyses, des reportings enrichis par la data de la part des fonds américains ou asiatiques, ils vont logiquement finir par attendre la même chose des fonds européens.
Et si on ne peut pas le fournir?
Eh bien, ça peut devenir un vrai désavantage pour attirer les capitaux. Un handicap compétitif.
Et l'IA Acte européen, dont on parlait pour la souveraineté, est-ce que ça peut être un atout dans cette course ou un frein?
Ça peut être un atout, potentiellement. L'Europe a une carte à jouer unique, celle de définir un cadre pour une IA qui soit digne de confiance, responsable, éthique. Si ce cadre est bien fait, s'il est pragmatique, ça peut devenir une sorte de label de qualité « Made in Europe ». Un avantage comparatif.
Mais ça ne suffit pas.
Non, ça ne doit pas cacher l'urgence d'agir sur le terrain, dans les fonds eux-mêmes. La compétition, elle est là. Et savoir exploiter intelligemment la data et l'IA, ça devient juste une nécessité pour être performant, pour rester attractif. Le risque de décrochage en efficacité, en attractivité pour les LPs, pour les talents aussi, il est bien réel.
pour les acteurs qui tardent trop à se structurer.
Très clair. Bon, si on devait maintenant essayer de résumer l'essentiel de ce qu'on a tiré de cette fiche IA Data, hashtag 14, quels seraient les messages clés à retenir ?
Alors, qu'est-ce qu'on retient de tout ça ?
Pour moi, ce qui est vraiment ressorti, c'est d'abord que pour passer à l'action sérieusement sur l'IA et la data, il faut commencer par le haut. Une gouvernance claire portée par les partenaires. C'est la première chose.
L'impulsion stratégique, oui.
Ensuite, que le succès dépend de fondations solides. Avoir des données fiables, faire travailler les équipes ensemble, la fameuse transversalité, et être rigoureux sur la documentation et les standards.
Les piliers dont on a parlé.
Voilà. Et enfin, ce point sur la souveraineté. Ce n'est plus juste une question de conformité réglementaire, c'est devenu un vrai enjeu stratégique pour la confiance.
C'est une excellente synthèse. Et j'ajouterais peut-être qu'il faut vraiment voir ça comme une transformation qui est autant culturelle que technologique. L'engagement de la direction, c'est nécessaire, mais ça ne suffit pas. Il faut l'implication de tout le monde. Et l'approche structurée, le codir actif, les principes clairs comme les quatre piliers, c'est ça qui fait la différence. C'est ce qui permet de passer des bonnes intentions aux résultats concrets, durables. C'est ce qui sépare les projets qui créent vraiment de la valeur de ceux qui restent des expérimentations sans lendemain.
Merci beaucoup, c'était vraiment très éclairant. Ça donne une vision beaucoup plus concrète de comment aborder ce défi majeur de l'IA et de la data dans notre secteur.
C'était un plaisir de partager cette analyse. Et pour prolonger un peu la réflexion, ça m'amène à une question. On a beaucoup parlé de structure, de processus, de technologie. Mais au fond, au-delà de tout ça, quel pourrait être le plus grand obstacle, l'obstacle le plus culturel ou peut-être humain à dépasser dans un fond pour vraiment réussir cette transformation, pour adopter cette transversalité, cette gouvernance partagée autour de l'IA et de la data? C'est peut-être là que se trouve le vrai défi, finalement.